15 mars 2050. Pas envie. Pas le moral. Johanny repousse sa chaise, se lève et appuie son front contre la vitre. Au dehors se languit le soleil blafard de l'automne californien, filtré par le nuage de particules, de poussière de fumée. Encore une journée bal masquée, comme dit Serena. Pendant leur enfance, c'était 3 ou 4 fois par mois. En une décennie, leur nombre a été multiplié par 4 et même par 5 l'été. Ça pourrit la vie de tout le monde. Enfin, tout le monde, sauf Bill Crowley, le refondateur de la Clean Breeze Corp, devenu en quelques années une des 5 plus grosses fortunes des États-Unis. Et comment donc? En créant un masque de moins d'un centimètre d'épaisseur, longue durée, et rechargeable sur batterie Clean Breeze, pour ceux qui en ont les moyens. Les autres se contentent de la version jetable, et les plus pauvres renoncent à protéger leurs sinus et leurs poumons. Sélection naturelle. Tous ces jeux d'adultes autour du pouvoir et de la richesse écœurent Johanny. Le résultat de tout ça, c'est que les jours masqués, elle vit dans une ville fantôme, à moitié déserte. Dans les quartiers riches, les voitures hydrauliques circulent à peu près normalement grâce à leurs purificateurs d'air intégrés. Pour le reste, le plus pénible, c'est cette sensation d'étouffement liée au brouillard jaune. Au-delà de 3 jours d'affilée, difficile de ne pas déprimer. À vrai dire, ces derniers temps, la sensation demeure une fois passée la porte de la maison. Tout devient tendu. Sa mère l'a envoyée chez un psychologue pour qu'elle guérisse de son obsession. « Faut faire ton deuil, ma fille, tu as la vie devant toi. » Johanny hausse les épaules. Face à ce genre de formule inepte et sentencieuse, c'est tout ce qu'il y a à faire. Elle ne confiera plus rien à sa mère, pas plus qu'à cet homme souriant, calme, chaleureux, qui la reçoit dans son grand bureau clair chaque jeudi, désormais. Ils se lasseront avant elle. Pas le moral. Elle laisse les vagues de souvenirs nourrir sa nostalgie. Embrassade familiale, câlin du soir, jalousie envers sa sœur qui obtenait tout plus facilement parce qu'elle était la cadette. Baignade dans l'océan, château de sable, bagarre pour rire avec Myra, les images s'en mêlent. Et puis comme toujours, l'une d'elles prend le dessus, s'anime, se déroule. Papa sur la plage, il leur explique, solennel, un parcours de survie qu'il vient d'inventer, à travers Venice Boulevard et les Venice Canals. Les dangereux ennemis sont embusqués à l'angle, sous le sable, dans les canaux, partout. Il faut être rapide, intrépide, aux aguets. Elles aiment tellement ce jeu. Leur préféré à toutes les deux. Que leur père en a fait un classique des balades au bord de l'océan. Combien de fois ont-elles couru ainsi derrière lui à perdre haleine, riant et criant? Il se retournait brusquement, désignait un point derrière elle. « Attention !» Et Johanny, sans se retourner, voyait le monstre, ses écailles, ses petits yeux féroces, ses rangées de dents aiguisées. Tony les embarquait comme ça, de tours en détours, et jamais par le même chemin. En revanche, le bal se terminait toujours de la même manière, au sommet d'une petite dune qu'elle connaissait par cœur. Et là, elle découvrait, tracé sur la plage qu'elle surplombait, un V victorieux avec à l'intérieur du V les initiales de leur prénom, un J, un M. À chaque fois, leur père avait passé un temps fou à figer le tracé des lettres avec du sable mouillé pendant qu'elle se baignait, et à chaque fois, il le refaisait, avec le même soin. Une autre image recouvre la précédente, le si attendu rituel du dimanche matin. Myra et elle se glissaient dans le lit des parents, sans un mot. Elles avaient âprement négocié avant, entre elles, pour décider laquelle serait contre papa. La bulle protectrice des couvertures, les odeurs des parents, parfois même les dernières brumes de rêve dans un demi-sommeil bienheureux. Johanny refoule ses larmes. Elle a détesté, presque tout de suite, d'instinct, Africa Land, qui lui prenait son père. N'a jamais voulu y fêter ses anniversaires, ni même y mettre les pieds après l'inauguration. Mon pauvre Tony, elle a hérité du caractère de sa mère. Pour vous, c'est double peine, lâchait régulièrement grandpa dans un éclat de rire tonitruant. Papa levait alors une main au-dessus de sa tête, serrant de l'autre une corde imaginaire autour de son cou, langue tirée sur le côté. Et il reprenait une bière sans s'arrêter de rire. Johanny les contemplait depuis le jardin de grandpa, assis sur leur chaise, leur rire d'immortel. Elle se force à reprendre pied dans le présent étouffant avant d'être à nouveau submergée par la nostalgie. Voir grandpa, lui parler, il l'écoutera, il l'aidera. Johanny hésite, grandpa a une santé si fragile, ne quitte plus guère le masque. Si les autres se mettaient en tête ensuite de l'interroger, Hélène a bien insisté pour qu'elle n'aille le visiter que tous les 2 mois, brièvement, afin de ne pas le compromettre. Mais là, elle en a besoin, en face à face. Le bourdonnement des moteurs hydrauliques du bus la berce. Pas grand monde en cet après-midi de poussière, et au-dessus des masques, les regards s'évitent. Une vieille dame lui adresse un sourire amusé que la jeune fille devine au plissement de ses yeux. Elle rentre chez elle, se dit Joanie, après avoir fait des ménages dans les locaux d'une entreprise dont elle porte encore la tenue réglementaire et le Clean Breeze fourni avec. Dans le bus, un écran connecté diffuse en sourdine les news, une enfilade de faits divers, tueurs fous, maris prenant des amants en otage, opérations de maintien de l'ordre dans des banlieues crasseuses, annonces de décision de Washington censée faire baisser la pollution. Même les journalistes n'y croient manifestement pas, il n'y a qu'à voir leur air accablé. La même chose tous les jours. Welcome to the Never Ending Show. On leur a vendu la transformation d'un continent entier en poubelle, continent dont la plupart des Américains se fichaient éperdument, à vrai dire, l'Afrique, contre la promesse d'un air pur et une vision dégagée sur un avenir radieux. Ça a foiré dans les grandes largeurs, mais on continue à leur fourguer le même alcool frelaté. Joanie détourne les yeux de l'écran, en retenant difficilement une envie de filer de grands coups de pied dans le siège de devant. Elle en pleurerait de rage. Grandpa est sur la véranda, dans son ancestral rocking chair en bois, qu'il a fabriqué lui-même dans les années 10. Les mains croisées sur les cuisses, ses longues jambes paresseusement étendues devant lui, ses cheveux blancs crépus jamais coiffés, et son air de vieux sage facétieux. Son masque est posé sur une table à côté de lui. Dès qu'il voit Joanie, il s'en saisit comme un enfant pris en faute, puis le repose en gloussant. « Oh, je veux bien faire semblant quand ta mère est là, mais toi... Tu restes souvent dehors comme ça, grand-pa ?»« Oh oui, Joe. À mon âge, on est libre de faire toutes les conneries qu'on veut, et depuis que Wendy n'est plus là pour me surveiller... » Un soupir suit ces derniers mots. Dan et Wendy Fremont étaient un couple indestructible. La mort n'y peut rien. Et de fait, grand-ma reste présente, comme le voile dans les yeux du vieil homme, sous ses sourcils blancs épais. Mais ne t'avise pas de faire comme moi, Joe. Cette purée de pois ne me dit rien qui vaille. Quand le vent vient du sud, comme aujourd'hui, toutes les saloperies industrielles qu'on a fourguées aux Mexicains remontent. Toi, tu es... Mais au fait, vous n'êtes plus surveillé. J'ai pas vu de voiture se garer depuis ton arrivée. Tu me sous-estimes, grand-pa. Walk on the wild side. Tu n'as pas remarqué que ces habits ne sont pas les miens? L'impère est au voisin, il les séchait sur sa terrasse. Et la perruque que j'ai dans la main est à Serena. Elle l'a oubliée la dernière fois qu'elle est passée après son truc théâtre. Ça ne fait pas du tout rire, grand-pa. Il reste un bon moment à la regarder, pensif, et Joanie a le temps de penser à sa mère, qui a dû avoir droit plus d'une fois à la même contemplation silencieuse dans sa jeunesse. T'es bien une Fremont, toi. Pas de doute là-dessus, non. Pas de doute. « Je ne te donne pas plus de 10 minutes, Joe. C'est très dangereux ce que tu fais. Et c'est dangereux pour moi aussi, si ta mère l'apprend. » Ça y est, il a retrouvé son rire. Ce rire de cigale psychotique. Myra a toujours dit qu'elle détestait ce crissement qui dégénère parfois en tour rocailleuse. « Arrête, Granady, on dirait l'homme de mes cauchemars. » Mais Joanie, elle, adore ce bruit des litres rouillés. Bon, 10 minutes, pas de temps à perdre en effusion, même si elle n'aime pas trop la boule qu'elle sent grossir au fond de sa gorge. « Grand-pa... » Je crois que papa est vivant, j'en suis même sûr, même si maman et Myra me croient folles. Là, Dan Fremont s'offre un remake du regard observateur pendant que la boule étouffe inexorablement sa petite fille. Pas la peine de discuter, hein. Je sais que tu n'en démordras pas. Cette famille. Tes arrière-grands-parents avaient surnommé ta grand-mère Mandela. Tu connais Mandela? Oui, évidemment. Ta mère t'a parlé de ça. Une entêtée de première, Wendy. Et tu te figures en admettant que ton hypothèse tienne la route que Tony a pu survivre dans cet enfer ? Joanie laisse le silence revenir. Elle n'ose pas lui en dire plus, mais elle sait qu'il s'apprête, selon sa propre expression, à assurer l'extra-balle après les drop targets. Elle a suffisamment joué avec lui sur le vieux flipper rouillé qu'il entretient méticuleusement dans son sous-sol pour décoder le vocabulaire grand-paternel. Sa mère déteste ce flipper. Il a passé plus de temps avec lui qu'avec ta grand-mère, Joe. J'adore mon père, mais il est ingérable. Laisse-moi deviner. Tu le cherches, hein? Bingo. Mais même si tu le trouvais, qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Ça fait une paire d'années que tu n'es plus une petite fille, mais ça fait aussi une paire d'années que j'ai pas vu ton menton trembler comme ça. Alors viens un peu dans mes bras, fillette. Ça nous rajeunira tous les deux. Les bras de grand-pa. Refuge sans âge. Grand-ma n'avait presque jamais ce genre de geste de tendresse, à peine si elle laissait parfois un doigt courir dans les cheveux des deux sœurs. Un bon sourire, pourtant. Mais seul Danny savait consoler ses petites filles. Je suppose que Serena est déjà au courant de tout ça. N'en parle à personne d'autre, hein. J'aimais bien ton père, Joe, et je vais te dire un petit secret. On savait très bien où tu te cachais pour nous observer quand on éclusait quelques bières. Antoine était très fier de ses filles. Il a toujours su, au fond, jusqu'au bout, que sa vraie réussite, c'était vous, et pas ces conneries de parc d'attractions. On est un peu stupides, nous les mecs, avec nos joujoux. Il hésite à continuer. Le fantôme de Wendy se faufile entre eux avec un sourire indulgent. Et ensuite, quand grand-pa a quelque chose au bord des lèvres, il ouvre la bouche deux ou trois fois, juste un peu, comme s'il avait du mal à respirer, ou comme un poisson d'aquarium. Je vais te dire, Joe, je ne serais pas surpris que ce soit vrai, qu'il ait survécu. Antoine avait beau être devenu un petit blanc assez arrogant, il gardait au fond de lui ce besoin de prouver au monde qu'il était quelqu'un. Le petit Frenchie qui veut être plus américain que les Américains. Jamais satisfait, insatiable. Cette force en lui peut le porter plus loin qu'on ne l'imagine. Cela dit, je crois pas qu'il soit coupable, tu sais. Mais en un sens, c'est pire. Il faut que tu comprennes que ce merdier où il s'est fourré, ça le dépasse. Et ça nous dépasse tous. Et si, par miracle, par je ne sais quel concours de circonstances inconcevables, il a survécu au crash, je le plains, Majo. Je le plains vraiment. C'est un jour d'automne, un jour sans masque, un jour d'autrefois. Hélène et Tony ont préparé les 8 ans de Joanie avec minutie. Une énorme course au trésor dans le jardin de grand-pa et grand-ma avec ses amis d'alors. Et puis les amis sont partis, et maintenant c'est le moment qu'elle préfère, quand ils sont tous les 6. Myra veut porter le gâteau d'anniversaire, grand-ma la laisse faire. À cette époque, elle est déjà toute pâle, amaigrie, elle ne parle plus beaucoup. Mais quand Joanie demande à sa mère ce qu'elle a, grand-ma, cette dernière répond très vite rien du tout. De sa fameuse voix intraitable. Ce jour-là, pourtant, Wendy sourit tout le temps. Et à un moment, elle prend même Joe et Myra dans ses bras. Elle sent un peu trop la vieillesse et les médicaments, mais ce geste-là les rend heureuses. Antoine, grand-pa et grand-ma l'appellent tout le temps comme ça. Coupe le gâteau en parts parfaitement inégales. Joanie se souvient, avec une absolue précision, de la douceur, de la lumière si claire, des gestes et du sourire de papa, et aussi de la voix moqueuse de grand-pa cessant soudain de se balancer dans son rocking chair. Rassure-moi, Hélène, il y a des choses qui font mieux que couper le gâteau. Hélène se lance dans un concours de sourires sarcastiques avec son père. « Enfin, papa, qu'est-ce que tu essaies de me faire dire devant tes petites filles ?»« Dan Fremont, serez-vous un jour au moins, acceptable ?» Grand-ma a soupiré ces mots en secouant la tête, mais sa voix sourit aussi. Et le père de Joe éclate de rire. « J'ai coupé des parts inégales parce que vous en prenez la moitié rien qu'à vous, vieux hibou, de la cherry pie. Mais c'est quand même ma fille que je servirai en premier. Tiens, ma Joe. » Là, maman est passée derrière papa, lui caresse le dos en prenant sa part et lui sourit. C'est avant Africa Land. Tout le monde a l'air en paix, heureux, dans la chaleur du soleil d'autrefois. Joanie se réfugie dans ce moment quand ça va trop mal. Elle ferme les yeux, convoque les odeurs, la lumière, les sourires. Petite louve triste, elle lèche ses blessures avec le bonheur passé et elle peut s'endormir.